de grâce. Ça, c'était le sujet qu'un ami avait proposé et souhaité pour son 90e anniversaire, fin janvier. Bon, maintenant, j'ai lu qu'il y a aussi un grand anniversaire aujourd'hui, et qu'on va célébrer, peut-être il n'est pas aujourd'hui même, mais Jean qui fête ses 93 ans. Donc, ça tombe très bien, n'est-ce pas? Puisque, finalement, ce jour-là où nous étions invités, c'était un dimanche, on a célébré un culte, le sujet était donc « Tout est grâce », et après on avait un repas ensemble, mais finalement, voilà, c'était prévu que je partage une parole, et ce n'était pas nécessaire, parce qu'il y avait un prédécesseur qui avait donc fait une très bonne prédication au sujet de la grâce, et donc j'ai pu retravailler ce sujet que j'avais réservé pour moi-même, pour aujourd'hui. Tout est grâce. Et c'était aussi le témoignage de cet ami, de ce frère de longue date maintenant. Et il a cité ce verset de l'apôtre Paul de 1 Corinthiens 15 et le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il a donné son témoignage. Il a raconté comment il avait vécu loin de Dieu, et comment il a retrouvé Dieu, ou comment Dieu l'a retrouvé, comment Dieu l'a attiré vers lui, et comment il s'est converti, et il s'est engagé, bon, heureusement qu'il s'est converti quand il était encore très jeune, il s'est engagé dans le travail du Seigneur. Il était responsable d'une église, il était un des responsables d'une église, il a aussi partagé la parole, il a prêché, et aussi il a participé à des camps d'enfants pendant de longues années, et donc c'était un homme vraiment très actif. Il a dit, tout est grâce, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et je rajoute encore ce que Paul écrit, et par la suite, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat ou vain, en vain, selon d'autres traductions. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi de toute façon, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et c'est vrai, quand on connaît un peu la biographie de l'apôtre Paul, alors on doit dire, oui, c'était vraiment la grâce de Dieu qui l'a touché là où il était en route pour persécuter son peuple, et qu'il a rencontré le Seigneur d'une façon miraculeuse, qu'il est tombé de son cheval, qu'il a été ébloui par la gloire de Dieu et qu'il a été engagé dans le ministère de Dieu et qu'il, en quelque sorte, nous a apporté l'évangile ici en Europe. C'est l'histoire que nous avons justement lue dans notre groupe de maison aussi, qu'il a apporté cet évangile à Philippe d'abord et ensuite en Grèce, et que cet évangile est venu jusqu'à nous. C'était la grâce, par la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu que nous connaissons aujourd'hui aussi l'évangile ici à Thonon et dans nos régions. La grâce, elle a un double sens, peut-être même plus, voilà. Mais je vais me limiter à ce double sens. Donc nous connaissons la grâce qui sauve. On en a parlé, on a chanté de cette grâce qui sauve. Alors bien que nous aurions mérité un jugement de la part de Dieu, ce jugement a été annulé et reporté sur quelqu'un d'autre, sur Jésus. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Alors personne d'autre aurait pu faire ça, personne d'autre l'aurait même fait. Mais lui, il a fait. Donc ça, c'est la grâce qui sauve. Et Paul écrit dans Éphésiens, je vais juste me lire ces deux versets de Éphésiens chapitre 2, et donc le verset 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Personne ne peut rajouter quelque chose à ce que Jésus a déjà fait sur la croix, puisqu'il a bien dit sur la croix, une de ses dernières paroles, « Tout est accompli. » Rien à rajouter, juste à recevoir. Nous sommes sauvés par grâce. Ensuite, le mot « grâce » peut aussi se traduire par « faveur ». Et donc là, fois, nous voyons un autre volet de la grâce qui apparaît très très souvent aussi dans la Bible. Voilà. Par exemple, justement, à la fin de cette lettre de 1 Corinthiens, où Paul avait dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis », il souhaite aux Corinthiens que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. En d'autres mots, que la faveur, la bienveillance de Dieu soit avec vous, ou de Jésus-Christ soit avec vous. Et donc, en tant que chrétiens, nous profitons énormément de cette double grâce qui nous est proposée par le Seigneur. Donc, la grâce qui sauve. Dieu ne condamne pas celui qui... Dieu ne condamne pas celui qui vient à lui. Alors nous lisons dans Romains 8, le premier verset ouvre ce chapitre avec cette vérité vraiment étonnante, mais tellement réconfortante pour nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça nous encourage, n'est-ce pas? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, donc c'est la grâce qui sauve. Il a pris sur lui le jugement que nous aurions mérité, nous. Et ensuite, à la fin de ce chapitre, il dit ceci. Dieu nous a choisis. Je lis le verset 31 jusqu'à 35. Dieu nous a choisis. Il est de notre côté par sa grâce et par sa faveur. Alors, pardon, ça c'est juste l'introduction. Donc il dit, dans le verset 31, si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les a déclarés justes, donc encore la grâce du salut. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il a ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Et donc là, on commence à voir la grâce qui est la faveur, la bienveillance de Dieu. Et ensuite, il pose la question, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Et après, une parenthèse, il continue à énumérer tout ce qui pourrait éventuellement les risques, nous séparer de l'amour du Christ. Et il dit non. Non. Il conclut dans le dernier verset 39, non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la grâce de Dieu. D'abord, il ne condamne pas ceux qui viennent en Christ à lui. Et ensuite, il se met de notre côté à 100%, sans faille. Donc Dieu se met donc clairement de notre côté. Alors, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne sais pas ce qu'il faut encore dire. Donc nous sommes tout d'abord sauvés parce qu'il met notre jugement sur quelqu'un d'autre, sur un innocent, sur Jésus. On vient de célébrer la Sainte Cène et donc là, cette Sainte Cène représente justement ce sacrifice que Jésus a donné. Il a laissé briser son corps, il a laissé couler son sang. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu a inventé une toute nouvelle justice, sa justice à lui. Ensuite, il vient dans ce monde, il prend lui-même notre faute sur lui, et donc plus rien peut nous séparer de son amour, de lui. Et ensuite, la grâce, la faveur, la bienveillance de Dieu, il nous accompagne, il nous soutient, il nous enseigne, il nous corrige aussi, et il nous aide à porter nos fardeaux pour nos besoins, et on pourrait continuer cette liste encore très longtemps. Voilà donc la double grâce de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, à la place de faire encore un exposé théologique au sujet de la grâce de Dieu, je me suis justement demandé, où est-ce que cette grâce devient visible dans la parole de Dieu? Et on pourrait trouver beaucoup de situations, beaucoup d'histoires dans la Bible où on trouve la grâce de Dieu. On peut dire, voilà, ça c'est la grâce de Dieu. Par exemple, la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, la marche dans le désert, oulala, combien de moments de grâce nous trouvons dans ces textes des livres de Moïse. Ou bien, en général, toute l'histoire d'Israël, où Dieu les a appelés encore, leur a envoyé des prophètes, a accompli des miracles, a menacé, a donné des jugements pour qu'ils se tournent vers lui par la grâce de Dieu. Bien sûr, après, on a aussi la croix. C'est la pure grâce de Dieu. C'est la grâce dans son double sens, déjà par le jugement d'angle et après aussi par sa bienveillance envers nous. La vie de l'apôtre Paul, nous l'avons déjà évoqué au début. Ou celle de Pierre, oui, certainement. Et on pourrait encore trouver d'autres textes. Mais finalement, je suis resté collé au psaume 23. L'Éternel est mon berger. Dans ces cinq mots, bien sûr ça continue encore après, hein, mais dans ces cinq mots, l'Éternel est mon berger, nous trouvons la grâce de Dieu. David, il connaissait bien le travail du berger. Il guide son troupeau vers des pâturages et les rivières. Il prend soin de chaque brebis, de chaque mouton, de chaque agneau. Il défend son troupeau contre les intrus, les bêtes féroces. Oui, par exemple, quand il se proposait pour aller combattre Goliath, il est allé voir le roi Saül. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bon, Saül a dit, mais écoute, toi, tu es un petit garçon, comment tu veux combattre un géant? Et David dit, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivra aussi de ce Philistin. Il connaissait ce travail du berger, et il connaissait aussi faire confiance en l'Éternel. Donc, c'était son travail, c'était de là où il est venu. Donc, David, il savait bien de quoi il parle quand il dit « L'Éternel est mon berger ». Il disait bien « mon berger », non pas seulement un berger, mais « mon berger personnel, à moi, le berger à moi, celui qui prend soin de moi, celui qui est tout pour moi, celui qui me sauve face à mes ennemis et qui me défend. » Et donc, peut-être, je vous pose la question, est-ce que vous aussi, vous pouvez dire, l'Éternel est mon berger? À moi personnellement, à moi tout seul. Est-ce qu'il est votre berger? Je ne sais pas si David, oui, probablement, il était conscient de la grâce inouïe qu'il avait d'être choisi comme roi de Dieu, comme roi d'Israël, mais choisi par Dieu. Peut-être vous connaissez l'histoire quand Samuel, le prophète Samuel, est venu voir sa famille, son papa, Isaïe. Et ce papa, il a fait passer tous les fils, parce que voilà, donc Samuel lui a dit, voilà, je vais venir chez toi pour choisir le nouveau roi d'Israël. Il a ramené le premier fils, c'était pas lui. Il a ramené le deuxième fils, c'était pas lui. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Il avait donc beaucoup de garçons. Et à chaque fois, Samuel, ou il faut dire l'Éternel lui a dit, c'est pas celui-là. C'est de là que nous avons ces paroles que nous chantons parfois avec les enfants. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur, n'est-ce pas? Vous connaissez sans doute ce cœur que nous avons enseigné déjà très souvent aux enfants. Donc, finalement, après le passage de ces sept garçons, Samuel avait demandé, mais est-ce que c'est tous tes garçons, c'est tous tes fils? Il a dit, ah non, le petit dernier est encore dans les champs, il garde les moutons. Et Samuel dit, fais le chercher. Et c'était celui-là que Dieu avait choisi, le petit dernier, que personne n'attendait qu'il soit choisi, mais Dieu l'a choisi. Un peu plus tard, quand David était déjà roi d'Israël, le prophète Nathan est venu le voir. Bon, il est venu le voir à plusieurs reprises, aussi quand David avait fait des bêtises, comme nous le connaissons. Mais ce jour-là, il a dit, il a parlé au nom de l'Éternel, il dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. » Donc, pour lui montrer, « Écoute, si tu es roi d'Israël maintenant, c'est que c'est par la grâce de Dieu que tu l'es, parce que je t'ai pris derrière les brebis, sur ton pâturage, au pâturage, et je t'ai fait roi d'Israël. » Et en même temps, ce David, il a reçu de nombreuses promesses pour sa vie présente, pour sa vie personnelle. De nombreuses promesses aussi pour son appel à la royauté. Dieu lui a aussi promis son aide rapprochée, parce que pour un petit berger, c'était pas évident de conduire un peuple, voilà. Et encore, il a reçu de nombreuses promesses pour le trône, non pas seulement d'Israël, mais pour le trône éternel. Donc, tout ce qui viendra après David, parce que même Jésus l'est appelé celui qui va occuper le trône de David, donc le Messie qui viendra plus tard, qui se mettra sur le trône de David. Et donc, ça, c'est je pense, une dimension que nous pouvons connaître grâce à la parole de Dieu, parce que nous regardons en arrière, mais que David ne connaissait pas en ce moment-là et n'a pas réalisé. Mais toute cette histoire de David, petit garçon ou jeune ado ou jeune homme simplement, qui a été choisi pour être roi d'Israël et pour même préfigurer donc le roi éternel, le Messie, toute cette histoire de David donne un poids énorme, important à ces cinq mots, l'Éternel est mon berger. Alors quelle grâce de la part de Dieu. Ce que David ne savait pas encore, un millénaire plus tard, viendra celui qui dira, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et bien sûr, ça c'est Jésus. N'est-ce pas? Nous connaissons cette histoire dans Jean 10, donc cette histoire du bon berger qui est Jésus. Et c'est lui qui apporte la grâce et la vérité dans ce monde, et qui l'a apporté pour nous aussi. Et donc maintenant, c'est le temps de la grâce, effectivement. Même si la grâce de Dieu était déjà là dans l'Ancien Testament, nous qui vivons, on peut dire au temps du Nouveau Testament, donc nous allons dire ça, c'est vraiment le temps de la grâce. Et, alors, au début de l'année, François a ouvert l'année de la grâce pour nous tous. Donc c'est vraiment un privilège de connaître ce Dieu, de connaître cette grâce, de connaître celui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme, voilà, comme Jésus le dit lui-même, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est une parole de conclusion après les trois paraboles où le fils était perdu, la pièce d'argent était perdue. Et donc, c'est ces paraboles dans Luc chapitre 19 et la conclusion au verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et ça, c'est notre grâce. Il est venu nous chercher, parce que sans lui, nous sommes perdus. Il a donné sa vie sur la croix, un sacrifice pour pouvoir nous pardonner. Ça, c'est la grâce qui sauve. Et ainsi, il rassemble encore aujourd'hui son troupeau, sa famille, son église, encore aujourd'hui, pour nous conduire vers ce but de l'éternité. Voilà, dont nous en parlait tout à l'heure, où il sera lui, le Messie, le lion de Juda, ou comme on veut toujours dire, sur le trône de l'agneau immolé. Donc maintenant, nous pouvons dire, Jésus est mon berger. Est-ce que vous pouvez dire ça? Jésus est mon berger éternel, personnel, pour moi, mon sauveur. Il est mort pour me pardonner, pour me purifier. Et c'est vrai pour tous ceux qui l'ont invité dans leur vie. Est-ce que ça c'est votre témoignage que vous pouvez dire oui? David a dit, l'Éternel est mon berger. Et nous pouvons le dire aussi, on peut rajouter, Jésus est mon berger, mon sauveur, celui qui prend soin de moi. Si vous avez cette relation personnelle avec le Seigneur, c'est merveilleux, c'est que vous avez vécu la grâce de Dieu, la grâce qui sauve. Et certainement aussi, vous êtes en train de vivre cette grâce de Dieu pour votre vie de tous les jours. Si vous n'êtes pas sûr, mais bon, que vous dites, ben, Jésus, c'est vrai, il est venu dans ce monde, il est le sauveur de ce monde, mais il n'est pas vraiment mon sauveur. Il est peut-être le berger de ce monde qui dirige le destin de ce monde, mais il n'est pas vraiment mon berger. Alors, je ne sais pas s'il m'a pardonné mes péchés à moi, s'il me purifie moi. Alors, si vous n'êtes pas sûr, donc il faut absolument et en toute urgence voir François ou quelqu'un des responsables de l'Église pour que vous puissiez donc clarifier cette situation. Parce que Jésus veut que vous puissiez dire, je suis où il est, mon berger, mon sauveur, et il m'a pardonné à moi, il m'a purifié. Donc je fais partie de sa femme et de son troupeau, de son église, de sa véritable église. Donc il a une démarche personnelle, une démarche de foi personnelle à faire pour que nous puissions dire cela avec une pleine conviction, chacun personnellement pour soi. On peut être, on doit même être là, très égoïste. Il est pour moi. Et il est assez grand pour que ça suffit pour tout le monde, donc il n'a pas d'inquiétude à ce sujet-là. Voilà, la grâce qui sauve, et cette grâce porte aujourd'hui ce nom de Jésus. Et la grâce qui est la faveur de Dieu, la bienveillance de Dieu pour les siens, n'a pas changé depuis David. Elle est toujours la même grâce, Dieu est toujours le même, il a toujours la même puissance, et donc il s'est juste révélé un peu plus maintenant, il est venu dans ce monde, il s'est révélé en tant que Jésus, comme personne, il est venu pour nous voir à notre niveau, pour nous enseigner, pour nous donner un exemple, pour mourir sur la croix, pour ressusciter, pour nous donner une espérance de nouvelle vie et d'une vie éternelle. Et bientôt, il se mettra sur le trône de David, sur le trône éternel de David. Et je pense, dans peu de temps. Voici donc la double grâce à partir de ces cinq mots du psaume 23, l'Éternel est mon berger. Maintenant, nous pourrions parcourir ce psaume 23, verset par verset, et trouver, et chercher, trouver la grâce de Dieu dans chacun de ces versets. Alors, on n'a pas le temps pour faire cela, on va juste faire peut-être un exemple. un verset. L'Éternel est mon berger, on l'a déjà vu. Je ne manquerai de rien. Donc cette deuxième partie de ce premier verset parle de la grâce, de la bienveillance, de la faveur de Dieu envers les siens. Celui qui veut dire, voilà, l'Éternel Jésus est mon berger, il sait aussi que l'Éternel, que Jésus va prendre soin de lui. Je ne manquerai de rien. Est-ce que c'est aussi votre témoignage? Je ne manquerai de rien. Alors quand je pense à toutes ces années que nous avons passées en Afrique avec notre famille, avec nos 4 enfants, 20 ans à peu près, et on était soutenus par des dons que des chrétiens donnaient, des églises, des amis chrétiens, des gens qui se sont engagés, ou pas engagés, mais juste qui en donnaient ponctuellement. Et on a pu régler toutes les factures dans les 20 ans. Une fois j'ai fait le calcul, mais j'oublie maintenant le chiffre, mais je me suis dit, voilà, on avait, donc dans les 20 ans, on a fait beaucoup de voyages entre l'Afrique et ici. On a scolarisé nos enfants dans des écoles privées. On a vécu dans ce pays que Dieu nous a choisi. On a bien vécu dans ce pays. Et ensemble, nous avons utilisé par année à peu près 50 000 euros. Fois 20, ça fait 1 million, n'est-ce pas? Ou est-ce que je ne sais pas bien calculer, mais voilà. Donc, de toute façon, ça fait une somme énorme qu'on n'aurait jamais pu avoir, nous. Mais on n'a jamais manqué de quelque chose. On avait des petits trous. Parfois aussi des gros trous, surtout quand on a dû faire des voyages avec 4 ados, ça fait des grosses sommes, parce qu'ils payent tous les tarifs des adultes. Alors, on n'a jamais manqué de quelque chose. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné le témoignage qu'on avait besoin une fois d'une voiture, parce que la nôtre était simplement devenue trop... trop difficile, disons, pour être fiable, voilà. Et donc, on n'avait que la moitié de l'argent, mais à notre insu, il y avait une famille, un couple qui s'est marié, et comme ils avaient déjà un certain âge, donc ils avaient tout, ils avaient déjà deux ménages, ils avaient trop de choses déjà, ils ont dit, bon, on va faire une gagnotte pour soutenir un projet missionnaire. Et donc c'est ce projet que nous ne savions pas qui a financé cette deuxième partie de la voiture. Et ainsi de suite, on n'avait que des choses qui étaient formidables et qu'on peut dire vraiment, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On n'a jamais manqué de quelque chose. Et le fait que nous pouvons être ici maintenant, c'est que Dieu nous a comblés de ses bienfaits encore. Et je dirais, il nous a dit, grâce à nos parents qui ont travaillé, qui nous ont laissé un héritage, mais en premier lieu, c'est grâce à Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je crois que chacun pourrait donner un témoignage de comment et de quelle façon que Dieu l'a aidé, l'a accompagné, l'a pourvu à ses besoins, jour après jour. Parfois par des moments difficiles, parfois par des moments plus faciles, mais Dieu était toujours fidèle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est la grâce de Dieu. Alors, on pourrait encore prendre le deuxième verset, voilà juste peut-être un dernier verset, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. La grâce de Dieu. Est-ce que vous avez eu des périodes dans votre vie qui étaient difficiles, où vous étiez fatigué, épuisé? Peut-être ce mot moderne, le mot de burn-out. Nous n'avons pas directement vécu ça, mais dans notre famille, oui. Mais à chaque fois, quand nous étions fatigués, Dieu nous a donné du repos. Dieu nous a envoyé quelqu'un pour nous aider. Et Dieu est intervenu pour, donc, pouvoir continuer la route. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Et le repos se trouve aussi dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un mois de vacances, forcément. Ça peut être un mois de vacances, pourquoi pas une retraite. Mais ça peut aussi être simplement un petit repos dans la parole de Dieu. Peut-être une sortie avec des amis pour reprendre courage. Un encouragement qu'on partage avec quelqu'un ou qu'on reçoit de la part de quelqu'un. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Et il me dirige près d'une eau paisible, là où je peux me reposer, où je peux boire, où je peux même rafraîchir. Et donc, je crois que chacun de nous pourrait donner des témoignages de ce moment de repos, de ce moment de rafraîchissement que Dieu nous donne dans notre vie. Dieu nous l'a donné, il l'a certainement donné aussi à vous. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui agit. Maintenant, je vais juste lire le psaume 23. Ou si tu peux l'afficher, peut-être nous pourrons le lire tous ensemble. Est-ce que c'est la même version? Moi, j'ai le second 21. C'est bon? Voilà, on va y aller. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelle grâce, n'est-ce pas? La grâce de Dieu qui couvre toute une vie, du début jusqu'à la vallée de la mort, et même au-delà. Il est là. Et donc je conclue simplement avec ce trois mots que j'ai commencé. Toute est grâce. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, tout d'abord, nous voulons te louer, nous l'avons déjà fait, mais nous le faisons encore une fois. Nous voulons te louer pour la grâce qui nous sauve. Ça, c'est vraiment quelque chose, Seigneur, que tu as accompli par amour, par ta grande bienveillance envers nous. Tu as donné ton Fils unique, tu l'as sacrifié. Et Seigneur Jésus, tu as donné ta vie. Mais tu l'as reprise aussi, tu es ressuscité. Et nous voulons te dire un grand merci pour cette grâce qui nous sauve. Oui, que nous puissions donc tous accepter cette grâce, recevoir cette grâce et devenir ainsi, participons à cette grâce et devenir membre de ta famille, de ton troupeau, de ton église. Mais en plus, Tu te mets clairement de notre côté, Seigneur, par la grâce, par la faveur, par ta bienveillance, Seigneur. Tu as donné ton Fils, et avec ton Fils, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour notre vie quotidienne, de la naissance jusqu'à la mort, et même dans la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour cette grâce de la bienveillance de ta faveur qui nous accompagne jour après jour. Oui, nous voulons nous appuyer sur toi et te dire merci, merci pour ta grâce qui nous fait vivre, qui nous fait marcher, qui nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie et qui nous donne une espérance au-delà dans l'éternité. Merci Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer, élever ton nom par-dessus tout nom pour cette grâce que tu nous accordes jour après jour.